Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé, en fait. MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est presque 9h40, France Inter, l'instant M, c'est parti.
Vous êtes en direct, allez-y.
Peut-on dans une même émission parler perruque et Kim Jong-un? Blockbuster et propagande communiste, YouTube et cinéma muet, dictature et comédie, dépression nerveuse et sketch à la télé. Tout cela est-il possible à la radio sans images et dans une émission très très sérieuse, camarade Jonathan Lambert? Oui, c'est possible.
Da.
Da. Bonjour.
Bonjour.
Demain soir, vous interprétez sur Arte un réalisateur français kidnappé par un despote asiatique féru de 7e art qui obligera son otage à tourner une version communiste de King Kong entre deux essais nucléaires. Rien, mais alors vraiment rien, ne tient debout dans cette histoire, si ce n'est ce dialogue à distance entre André Gide et Steven Spielberg et une jolie réflexion sur l'artiste privé de liberté.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Vous étiez pas censé parler une langue un peu... Vous parlez quoi d'ailleurs tous dans ce film ?
Je crois que c'est du mandarin.
C'est ça.
Je crois que c'est du mandarin.
Mais tout le monde fait semblant ou on vous a vraiment écrit des dialogues ?
Non, non. Alors, pour être honnête, c'est très très difficile d'apprendre quelque chose quand on ne sait pas ce qu'on dit.
Oui, ça,
D'ailleurs, dans mon spectacle, c'est pareil. Je crois que j'ai une chanson en allemand. J'ai mis autant de temps à apprendre la chanson en allemand que une heure et quart de spectacle. C'est très troublant, hein, parce qu'il y a pas de... C'est là où on se rend compte que la mémoire est associative et que quand elle ça se raccroche à des noms, à des choses qu'on voit, on peut apprendre. Mais quand on ne sait pas ce qu'on dit, que c'est juste un enchaînement de syllabes, c'est
Et vive le cinéma en mandarin, ça se dit ?
Tignien Wan Sui. Mais
merci.
Attention, parce que je crois que ça veut dire ça, mais ça se trouve, on s'est foutu de ma gueule depuis le départ. La traductrice me dit.
Allez, Jonathan Lambert, on fait juste un petit tour d'actu des médias. Bras de fer entre les autres entreprises de l'audiovisuel public et le gouvernement. Un article paru dans Le Monde hier, et remarqué évidemment par nous tous, parle d'un sévère tour de vis budgétaire. 50 millions d'euros d'économies demandées à France Télévisions, 20 millions à Radio France, c'est-à-dire à nous, 5 millions à Arte et à France Média Monde. Sachez que Radio France est déficitaire depuis 2014 et vise le retour à l'équilibre pour la saison prochaine. France Télévisions vient tout juste de rétablir ses comptes. Ce tour de vis n'est pas encore acté, mais sa fuite dans le quotidien du soir en dit long sur la tension qui règne entre vos chaînes de télé et de radio et leur tutelle. Enfin, ça s'est passé à France Inter, même si Patrick Cohen, aujourd'hui, exerce ses talents à Europe 1. À l'époque, en 2015, il était aux manettes du 7-9. Et à ce moment-là, il fait comme chaque jour son billet de 7h43. À 7h43, il reprend des informations publiées par le site BFM Business concernant l'animateur de télé et businessman Arthur.
Et ces 8 millions d'euros de plus-value, ça fait combien dans les caisses de l'État ? Bah, ça fait zéro, puisqu'Arthur a logé sa holding au Luxembourg. Et ça fait zéro payé par Arthur, puisque les plus-values de ce genre n'y sont pas imposées du tout.
Plainte en diffamation d'Arthur après cette chronique. Plainte en diffamation dont il a été débouté en tout point hier par le tribunal. Jonathan, je vous présente Redouane Tella. Salut Redouane.
Salut Sonia.
Le pilier de cette émission qui chaque jour alors me fait découvrir dans notre bureau des merveilles d'inventivité ou de débilité, ça dépend, circulant sur les réseaux sociaux.
J'aimerais bien la deuxième option, s'il vous plaît.
Là, vous allez y avoir droit. Voilà, alors toutes, néanmoins, elles en disent assez long sur notre époque. Là, c'était tellement insensé que ça méritait d'être partagé. Redouane, on va commencer très sobre avec ce qu'on appelle des vidéos de dégustation. Autrement dit, des vidéos où l'on voit des youtubeurs en train de manger.
Ouais, et alors là, vous me dites, qui a envie de voir des jeunes gens s'empiffrer pendant des heures, à part moi, bien sûr. Voilà.
Qui a envie de voir des jeunes gens s'empiffrer pendant des heures ?
Eh bien, à en croire le nombre de vues de ces vidéos, des millions de personnes s'y intéressent. Aussi étrange que cela puisse paraître, les vidéos de dégustation sont très régulièrement dans le classement des contenus les plus regardés sur YouTube et de nombreux YouTubeurs stars s'y intéressent. Exemple, avec David Lafarge Pokémon, un des YouTubeurs les plus en vogue chez nos ados, qui partage ici un McDo avec son ami devant 5 millions de curieux.
Voilà. On a pris les patatos et les frites.
Alors, il y a aussi un Royal Bacon, donc on a pris tous les sandwichs de base.
Tous les sandwichs de base et le sandwich spécial qu'il y avait.
Donc Royal Bacon, filet au fish.
Le Big Mac.
Ok.
Le McChicken.
Et le... Ouh, testi que j'ai pas eu faire
le Big Testi. Voilà.
Voilà, David Lafarge.
Mais est-ce que c'est pas une façon pour les gens seuls de dîner en tête à tête ?
C'est exactement ça. Oui, qu'il est intelligent, cet invité. Voilà, il n'est pas le premier à s'être filmé en mangeant. En Corée du Sud, figurez-vous, c'est même entré dans les mœurs, parce que là-bas, il y a des centaines de personnes qui prennent leur repas en live sur Internet tous les soirs. Et c'est exactement pour les raisons que vient d'évoquer
Jonathan
Lambert.
Bah oui, parce qu'il y a une raison sociologique toute simple. On estime que près de 40% des célibataires, que 40% des Coréens de moins de 50 ans, des Sud-Coréens, pas la Corée du Nord, sont célibataires. D'où l'envie de partager son repas avec des inconnus, comme vous venez de le dire. On a envie de partager un moment d'intimité avec des milliers de personnes.
Finalement, ce n'est que le prolongement, souvenez-vous, de cette cassette VHS du feu de cheminée.
Absolument.
Exactement.
Absolument.
On avait chez... Voilà, je trouve que c'est un petit peu... Moi, je trouve ça très poétique.
Exactement. C'est le même principe. Et pour les vidéos de dégustation française, ça se passe à peu près de la même façon. Avec les repas, les youtubeurs, donc stars, créent une forme de convivialité et nous, un lien privilégié avec les abonnés. On a l'impression d'assister à un moment d'intime.
Voilà. Alors là, on arrive au clou du jour. Le clou du jour, c'est un sous-genre de la vidéo de dégustation qu'on pourrait appeler la vidéo de mastication.
Ouais, là, c'est vraiment très étrange. Le principe est le même. Des gens se filment en train de manger, sauf que ces gens se sont équipés en micro de pointe, leur permettant de capter tous les bruits produits par leur bouche pendant le repas. On écoute.
Ah, mais il est dans une grotte, là.
C'est atroce.
Bon, dans cette vidéo, on peut voir une femme en gros plan manger goulûment de gros cornichons. Bien évidemment, c'est érotique à souhait, ça cartonne sur le net. Mais ce qui m'a personnellement intéressé dans cette démarche, c'est le fait de représenter de la manière la plus brute qu'il soit l'ingestion alimentaire. Pas de commentaires, pas de ou de burk, juste de la bouffe qui se croque, se mastique et s'avale au rythme de bruit de bouche assez crade. Bref, la chair, le réel répugnant et sensuel qui s'impose sur Internet et qui prend sa revanche sur la froideur dématérialisée du numérique.
Ah ouais, c'est le retour du corps, Jonathan Lambert. Non, ça le laisse totalement perplexe.
Ah ouais, non, autant le feu de cheminée, je suivais.
Oui, je suivais.
Non, 3 millions de vues pour cette vidéo.
Pour la déglutition
oui. Mais oui, absolument. Elle a des seins énormes, des ongles très très longs.
Ah bah oui,
tout
mais vous ne dites
ça,
pas tout.
Mais si, il a dit c'est érotique à souhait, mais il est timide, Redouane. Jonathan Lambert, vous n'avez pas démarré sur YouTube, vous êtes vraiment de la génération d'avance. C'est ça qui est intéressant de voir comment tout ça a évolué. Vous avez été révélé par la télé, notamment par la grosse émission sur la chaîne Comédie qui a été un vivier. Vous y avez construit vos premiers personnages. Et nous, on se disait hier, en regardant ce qui s'est passé ensuite avec le stand-up et puis YouTube, on s'est demandé qu'est devenu le personnage de comédie dans lequel vous excellez, sur lequel vous avez construit votre carrière en télévision, sur la scène aussi. Qu'est devenu le personnage de comédie ?
Le personnage, moi, j'ai toujours essayé de le filer à travers différents médias, parce que j'ai fait par exemple même sur Internet, j'ai fait une série qui s'appelait Looking for Maman avec un personnage que j'avais créé. Ce que j'ai fait chez Ruquier par la suite, c'était de la télé, mais c'était aussi des personnages. J'ai fait des trucs à la radio aussi, un feuilleton radiophonique, c'était des personnages. Donc c'est vrai que c'est un genre que j'adore, parce que ça me permet de pousser toujours d'être un peu dans l'outrance et faire passer des choses qui sont pas, enfin qu'on aurait plus de mal à faire passer en disant jeu.
Voilà. Parce qu'on est bien d'accord qu'avec le stand-up d'abord et puis YouTube ensuite, on a vu pour la première fois Jamel dire « je vous fais rire en mon nom parce que je suis Jamel et que je vous raconte mon histoire ». Et Norman sur YouTube, c'est pareil. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est une génération qui dit « je » et qui ne fait de l'humour et qui ne crée un lien qu'autour de sa propre histoire, de son propre parcours.
Ouais, non, je pense que ça, c'est peut-être plus vieux que ça quand même. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont montés sur scène en parlant de « eux ». Mais je voilà, c'est un exercice qui, moi je sais que j'y arriverai pas, tout ouais. simplement. Donc
et
après,
le sketch à la télé, il existe encore? Parce que nous, on regardait, donc évidemment, il y a eu De Cône, Garcia, il y a eu vous chez Ruquier, ailleurs, et puis il y a eu toutes les perruques de Cadet Olivier, de Cyril Hanouna, il y a même eu des perruques chez Patrick Sébastien. Mais le sketch, vraiment, on s'est dit, à part Eric et Quentin dans le quotidien, équipe que vous avez rejoint, je sais pas, vous continuez cette saison d'ailleurs,
bien sûr,
voilà.
Où
là non plus, vous n'arrivez plus déguisé. On s'est dit, ce sketch-là, cette idée du sketch, de cette bulle déguisée, mise en scène, etc. C'est comme si elle avait disparu, comme si l'humoriste à la télé, il venait faire un billet, une chronique, et plus du tout ce registre-là.
Bah, j'essaie. Bah, par exemple, dans Quotidien, je trouve que c'est un petit peu entre les deux, parce que je même si je parle en mon nom et que je ne suis pas déguisé, c'est évidemment parfois prétexte à amener des choses qui sont plus d'ordre visuel que d'être juste assis face caméra et de soit de faire une chronique. Donc c'est un petit peu entre deux. Mais non, je pense pas. Puis après, il y a peut-être des cycles. Je suis pas non plus suffisamment. J'ai l'impression d'être un expert, un vieux sociologue de la télé.
Vous avez démarré sur la chaîne Comédie, ça prouve que vous êtes très très vieux.
C'est vrai.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Kim Kong est diffusé demain soir sur Arte, 3 épisodes d'affilée, fiction assez barrée, signée du bien-aimé Stéphane Cafiero, c'est ça?
Ouais.
Donc rien ne tient debout dans cette histoire, pas une once de vraisemblance. Vous, Jonathan Lambert, vous interprétez un réalisateur qui enchaîne les blockbusters jusqu'à ce qu'un dictateur le fasse enlever pour réaliser les chefs-d'œuvre de propagande pop dont il rêve.
Pourquoi vous kidnappez pas quelqu'un d'autre? Vous savez, j'ai pensé à Jacques Audiard. J'ai son numéro de portable, je vous le file avec plaisir. En plus, d'une certaine manière, je crois qu'il serait pas inintéressé par ce type de projet. Puis le gars, quand même, il a eu une palme d'or.
Et voilà, il a eu une palme d'or. Bah non, c'est tombé sur vous, sur votre personnage de fiction qui s'appelle Mathieu Stanis, comme on le répète en long, en large et en travers. Pourquoi c'est tombé sur vous, Jonathan Lambert?
Je dois dire que ça a été assez dingue parce que j'étais en train de lancer mon spectacle Looking for Kim, qui traite un petit peu du même sujet dans la mesure où c'est un spectacle qui aborde le sujet des dictateurs, évidemment toujours avec un ton humoristique, avec un vrai décalage. Donc je connaissais cette histoire puisque tout part d'une histoire vraie, c'est que Kim Jong-il, le père de l'actuel dirigeant, qui était fan de cinéma, s'était fait construire un studio digne d'Hollywood à Pyongyang, mais s'il avait le matériel, il n'avait pas les bons hommes, les bonnes équipes. Donc, logique implacable de dictateur. Il s'est dit, bah, puisqu'on n'a pas le bon gars chez nous, on va aller l'enlever.
Aller chercher.
Voilà. Donc, il a enlevé un réalisateur star sud-coréen et sa femme, qui était la comédienne star aussi de l'époque. Et il les a obligés à tourner. Donc, quand j'ai reçu ce scénar, je me suis dit, c'est quand même très étonnant de travailler sur un spectacle dont la question est un peu la même. Et voilà, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté. C'est trop fou.
Alors, en même temps, ça plonge votre personnage dans une situation assez complexe et assez intéressante.
L'art naît dans la contrainte, vit de lutte et meurt de liberté. André Gide. Allez, la France est avec vous, mon petit Stanis.
Si vous croisez André Gide, dites-lui que je l'emmerde.
Alors nous, l'art naît dans la contrainte, c'est devenu notre mantra. Ouais. J'espère que vous aussi vous l'avez appris par cœur. La contrainte là, c'est à la fois la terreur et en même temps le manque cruel de moyens de savoir-faire que votre personnage va trouver sur place pour pouvoir tourner. Et c'est là que votre personnage, voilà, de Parisien gâté, pourri, branché, blasé, déprimé.
Gâté, trop pourri gâté.
Va devoir aller chercher tout au fond de lui son savoir-faire de cinéaste.
Ouais. Ouais, c'est une sorte de syndrome de Stockholm, mais après c'est la question centrale de cette comédie. C'est effectivement, c'est drôle parce que je l'ai apporté parce qu'hier je lisais un article dans un magazine et c'est Christopher Nolan. Je l'ai pris parce que j'étais très étonné. Puis comme ça au moins les auditeurs vont savoir que je sais lire.
Oui.
C'est Christopher Nolan au sujet de Dunkerque et on lui dit: vous êtes passé par le thriller, la SF, les super-héros. Pourquoi affectionnez-vous les films de genre? Le genre donne un cadre et me stimule. Je vois une série de règles et me demande ce que je peux tordre. Et au contraire, ce que je dois impérativement respecter. C'est comme les IQ, et il finit en disant: sans contrainte, la créativité se dilue. Et je crois beaucoup à ça. Je trouve qu'en fait, et dans une moindre mesure, quand on est à la télé, pour avoir fait beaucoup de sketchs, qu'on sait qu'on doit être prêt à 19h, qu'on a un sketch qui doit durer 5 minutes, qu'il y a des règles, il faut que ça rigole dès les 30 premières secondes parce que c'est comme ça que les gens vont rentrer dans le sketch ou dans le personnage. Il y a quelque chose finalement d'assez stimulant que de se retrouver devant une toile blanche et je pense que on a toujours besoin d'un cadre. Ouais.
On a toujours besoin d'un cadre. Le
bon,
cadre
pas
là,
celui-là. Là,
c'est la menace de mort et la terreur. Donc c'est tout ce qui peut donner la richesse aussi de ce canevas. Moi je le dis, j'ai trouvé le premier épisode très lent, peut-être un petit peu décourageant. Vous jouez quelqu'un de très déprimé qui est évidemment en rejet complet. Faites beaucoup la gueule, en rejet complet. Et puis petit à petit, tout ça devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus enlevé et assez émouvant.
Et ce qui est étonnant quand même, je précise, c'est que c'est une comédie, mais la réussite aussi de cette comédie, c'est qu'elle passe par des moments qui sont franchement angoissants, franchement émouvants.
Bah forcément, en même temps, vous avez vraiment affaire à un despote et un despote totalement illuminé.
Soudain, King Kong aperçoit sous le pont le président Donald Trump. Il pousse un cri de terreur. Il veut s'enfuir. Oh non! Please don't kill me, mighty gorilla!
De Chaplin à Sacha Baron Cohen, en passant par ce formidable personnage de Kabul Kitchen incarné par Simon Apkarian, qu'est-ce qui fait du dictateur paradoxalement un si bon personnage de comédie, Jonathan Lambert ?
Bah parce qu'on est dans le hors norme, je crois. On est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la marionnette, de la caricature, du grotesque,
du burlesque aussi, puisqu'on utilise énormément le corps.
Et ils ont souvent, oui, aussi un look qui prête plutôt à. On se dit c'est pas possible. C'est-à-dire, moi c'est ça, ça a été la question. Ce qui m'a fait démarrer mon spectacle, c'est de me dire mais comment ces gars qui, au premier abord, on a envie de se rire quand on voit Benito qui fait la marche sur Rome, quand on voit Hitler dans ses discours, quand on voit Amin Dadaab bardé de médailles. En plus, l'avantage, c'est qu'on c'est pas, je veux dire, la dictature, je le dis dans mon spectacle, c'est Black Blamber, hein, ça appartient vraiment à tout le monde et ça existe depuis la nuit des temps, donc on peut pas plus se situer quelque part, mais il y a quelque chose, ouais, de l'ordre de tellement grotesque, tellement ridicule, et pourtant c'est terrifiant parce qu'ils existent et parce qu'ils sont là et parce qu'il voilà, il y a d'énormes, enfin il y a un nombre,
c'est terrifiant. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que la ligne est extrêmement fragile.
Ouais.
Le rendre drôle, c'est une chose, le dictateur, le rendre sympathique, c'en est une autre.
J'ai écrit 12 longs métrages. Vous vous rendez compte? 12. Mais ma destinée ne m'a pas permis d'exprimer mon talent. Le camarade Marx, le camarade Staline, le camarade Mao, ils m'emmerdent. Moi, mes vrais amis, ce sont le camarade James Cameron et le camarade Peter Jackson.
Peter Jackson, c'est donc le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Comment on ne franchit pas justement cette ligne-là pour en faire un personnage sympathique ? Et c'est là que le troisième épisode de King Kong est formidable, je trouve.
Mais c'est tout le, c'est en ça qu'ils réussissent malheureusement ces dictateurs. C'est que je pense qu'ils savent charmer aussi, ils savent attendrir. Parce que s'ils étaient uniquement monolithes, en dégueulasse, salauds, méchants, je pense qu'ils n'y arriveraient pas. Et je pense qu'autour d'eux, ce qui fait qu'ils arrivent à s'imposer petit à petit et parfois c'est aussi par les idées, hein, ce qui s'impose, c'est pas forcément par la force. Quand ils arrivent au pouvoir, la plupart arrivent par leurs idées. Donc je pense qu'ils savent très bien manipuler psychologiquement.
Jusqu'au moment où votre personnage est rattrapé par la réalité.
Ah bah,
par la réalité terrifiante de ce à quoi, quand même, quelques minutes et quelques jours et quelques semaines, il a cru. Et dans lequel il s'est laissé prendre.
C'est malheureusement le talent de ces ordures.
C'est ça. Et d'où l'idée que quand même la comédie va laisser place aussi à la souffrance, à la résignation, à la soumission, et voilà, à on va dire à un champ un peu plus.
Oui, et puis c'est très étonnant parce que je trouve que la tonalité elle est vraiment en zigzag. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça devient drôle et que ça commence à être vraiment une comédie assumée, ça part dans un truc presque angoissant. Il y a aussi de la romance, et quand il y a cette histoire d'amour qui naît entre sa comédienne et donc ce réalisateur, on pourrait se dire bon ça y est, ça va devenir un peu cheesy, dégoulinant et tout. Et non, même cette histoire d'amour, il y a des moments drôles pour retirer le tapis sous les pieds. Et voilà, je trouve qu'il y a presque une forme de pudeur, de sensibilité dans la manière dont ça a été filmé.
Et puis le fil rouge, c'est cet hommage au cinéma.
Oui, c'est surtout
ça. Et vraiment, et à l'artisanat du cinéma. Ça va de George Lucas réalisant avec deux bouts de ficelle Star Wars dans les années 70, ou à Murnau qui faisait la même chose avec son Nosferatu.
Mais même le cinéma de propagande, Eisenstein a fait des chefs-d'œuvre. Et après, on peut considérer, oui, que finalement, c'était quand même du cinéma de propagande.
Mais c'est vraiment un hommage, voilà, à la mise en scène, au cadre, au travail de l'image.
Ouais, je pense que les amoureux de cinéma vont Enfin, il y a un discours qui est très touchant, je trouve, sur le cinéma.
Ouais. Voilà. Et puis, en creux, les amoureux de cinéma, et puis aussi ceux qui en ont marre de voir des super-héros tourner sur fond vert, débouler sur vos écrans chaque année, se disent qu'en fait, on peut dire autre chose du cinéma. Ça s'appelle Kim Kong, 3 épisodes d'affilée, c'est demain soir sur Arte. Merci Jonathan
Lambert.
C'est la fin de l'émission.